Focus. Gros plan sur les artistes des Alpes du Sud. Gilles Berger. Focus. L'art en grand.
Amis auditeurs de RCF Alpes-Provence, bonjour. Nous recevons pour ce nouveau focus le plasticien Alejandro Guzzetti, bonjour.
Bonjour.
Et la photographe Monica Riccini, bonjour.
Bonjour.
Monica, vous êtes le témoin permanent du travail d'Alejandro. Vous structurez son œuvre à travers les magnifiques brochures de photos qui regroupent des centaines de créations à travers l'Europe depuis 20 ans.
Ouais.
Alors je vais citer quelques endroits où vous êtes passé. Il y avait le festival Arvento en Italie,
ouais.
Le festival de kite en Angleterre, ouais. Le festival folk en Ukraine, le festival de biodiversité de Milan. Et puis le concert d'instruments éoliens à Erten en Allemagne.
Ouais.
Alors pour le 05, vous êtes passé au festival de Chaillol, ça c'était en 2011 je crois.
Ouais.
Vous êtes passé au Centre d'art contemporain de Briançon, et puis au festival des arts de Serres, ouais. Où Alessandro est le directeur artistique pour la prochaine édition en 2013.
De juin.
En juin.
Oui, en juin à la Germanette sur le thème du vin.
Voilà, et on refera une émission là-dessus, ouais. Spécialement. Donc vous faites du land art. Autrement dit, en français, de l'art environnemental. L'espace de création, c'est la nature.
Ouais.
Alors, pour que les auditeurs comprennent un petit peu mieux, qu'ils se visualisent, ce serait bien de parler de l'araignée géante. Le vertigo, vous avez appelé ça.
Oui, c'est un travail que j'avais fait à La Rochette. Je m'avais inspiré dans l'architecture des animaux et j'avais parti à travailler avec ce travail pour l'endroit. L'endroit, c'est très grand.
Ouais.
J'avais trouvé un bel lieu pour m'exprimer avec ces travaux.
À Saint-Julien-en-Beauchesne.
À Saint-Julien-en-Beauchesne, oui.
Donc c'est une sorte de V entre deux rochers.
Oui, c'est une sorte de V entre deux rochers de plus ou moins 50 mètres de hauteur et 50 mètres d'ouverture. Et là, j'avais posé la grande toile.
Voilà, donc une araignée énorme avec quelqu'un qui était prévu pour passer sur cette araignée.
Oui, oui. Et l'idée c'est de...
De faire un pont.
De faire un pont,
entre
même
deux
la suspension, un équilibre dans cette structure éphémère. Et alors...
Peut-être simplement l'équilibre entre les deux mondes que vous vouliez représenter.
Oui, c'est ça.
Et l'architecture animale aussi.
Oui, il y a des choses qui sont très intéressantes pour moi, comme quand j'avais construit la toile, j'avais compris beaucoup de choses, de l'attention de la toile et tout ça. Et pour moi, c'est ça la chose plus importante. Après,
c'est une recherche de l'équilibre.
Oui, oui,
absolu.
Oui. On comprend que ce que vous faites, c'est de l'art éphémère.
Hein, oui.
C'est-à-dire que vous allez créer quelque chose. Si Monica ne prenait pas les photos, il ne resterait rien de ce que vous faites.
Oui, ça c'est très important. Pourquoi tous les travaux que j'avais faits sont des travaux très éphémères, qu'il y a deux, trois jours de vie. Et ce n'est pas la Monica qui prend des photos et prend
le témoignage.
Oui, des travaux que j'avais faits, je ne peux montrer rien.
Oui, oui, oui.
Et alors, je pense que les travaux de la photo, c'est très important pour moi.
Oui, oui. Et sur votre site, on donnera votre site tout à l'heure, il y a des centaines de photos et
oui.
Il y a le blog de Monica,
oui.
Aussi, où on retrouve tous les articles,
oui.
sur ce que vous avez fait. Ça, c'est un travail formidable.
Merci.
Alors, vos inspirations sont liées aux matériaux. Donc, c'est que des matériaux naturels.
Oui, je préfère normalement de travailler avec les matériaux naturels.
Il y a la plume, il y a les coquillages, il y a le saule, l'arbre le saule,
oui.
Que vous travaillez tressé.
Oui.
Il y a le chanvre, le bambou,
oui.
Les ombres.
Oui, les ombres.
Les nids, vous avez eu une période avec les nids.
Oui.
Et puis le vent. Alors on va garder le vent pour la deuxième partie, parce que c'est un matériau très fort pour vous.
Oui.
Et on va essayer de parler un peu de la plume. Vous aviez fait moi j'ai vu la photo d'une sorte de haie de roseaux de plumes.
Oui.
Qui est comme ça, toute seule, dans la montagne, sur la neige.
Oui.
Quelle était l'idée que vous vouliez, que vous aviez?
La plume pour moi, c'est une chose très légère et petite. Et dans l'endroit que j'avais trouvé au nord de l'Italie, en Val d'Aosta, c'est un endroit très ouvert, énorme, l'immensité de l'espace, tout couvert de neige. Mm. J'ai trouvé cet espace tout blanc, désolé. Et avec les plumes, c'est comme faire un dessin sur la neige.
Ouais.
Ce sont des plumes noires. Et alors, j'avais utilisé plus de 2000 plumes. Et j'avais fait des dessins dans la neige.
Ouais.
Et après, la Monica a fait des photos de loin, parce que la structure que j'avais construite, c'est très grande. Et pour regarder mieux l'installation, c'est besoin que tu poses
une perspective.
Un peu loin, une perspective ouais, loin. Ouais.
Et le dessin que vous aviez fait, c'était dans quelle idée vous aviez...
C'est un dessin qui m'est sorti naturellement en fonction de la morphologie du terrain. Il y a des lignes droites, il y a des cercles. Après, s'est succédé une chose très intéressante que j'avais prendu
beaucoup de
plumes et j'avais lancé dans l'air.
Ouais.
Et le vent et qui a distribué toutes les plumes dans la neige. Et se sont posées dans la neige. Et après, j'avais continué à dessiner avec les autres plumes à côté de ça.
Ah oui.
C'est une chose aléatoire, un petit peu.
Comme un feu d'artifice de
plumes. Ouais.
C'est ça, oui.
Ouais. Mais on a l'impression aussi que les plumes, c'est un peu comme des soldats qui vont nettoyer la montagne ou l'univers, non?
Peut-être. Normalement, je préfère de pas expliquer beaucoup et j'accepte les interprétations que les personnes vont donner. Mmh. Alors, ton interprétation, pour moi, c'est bien, mais quand j'avais travaillé, j'avais tout une autre idée.
Ces œuvres, vous acceptez qu'elles retournent à la nature, qu'elles soient réabsorbées par l'érosion?
Oui, normalement, il y a beaucoup d'installations que j'avais travaillées avec l'idée de laisser les matériaux dans la nature pour être absorbés et laisser là. La vie de ces matériaux reste là, dans le lieu que j'avais choisi.
Donc ces œuvres sont vraiment prévues pour disparaître?
Oui.
Mais certaines partent chez des collectionneurs, en définitive, vous en vendez une partie aussi?
Oui, il y a cette les grandes installations n'est pas possible de vendre.
Ouais.
Mais je travaille aussi dans des petites sculptures, des petits travaux avec matériaux naturels qui sont pas à vendre.
Ouais, voilà, comme les mobiles et les épouvantails.
Oui, mobiles, sculptures, les animaux. J'avais mon propre cosmogonie des animaux et pour moi les animaux c'est un vie très intéressant pour moi et alors je ne sais pas pourquoi, mais quand je prends deux ou trois petits bâtons, automatiquement ils viennent en forme d'animaux.
Ah oui. Et vous avez votre propre cosmogonie, vous avez créé des animaux spéciaux en définitive qui n'existent pas?
Oui, je pense que qui regarde mon travail pour regarder qu'il y a quelques assimilations avec les animaux, mais ils ne sont pas animaux très définis.
Mais vous avez donné des noms?
Non. Je suis contraire à donner des noms. Pourquoi? C'est la chose que j'avais dit avant. Je préfère que chacune prenne son imagination avec sa objet. Et si je lui donne un nom, je limite ton imagination.
Imagine.
On va passer à un autre matériau, donc une autre époque matériau, puisque ça vous occupe pendant des années, ces matériaux. C'est le saule tressé. Donc là, vous aviez fait une sorte de concert à Aerten, en Allemagne.
Oui.
Avec des œufs, des sortes de formes d'œufs.
Mm-hmm. Quand j'avais commencé à travailler la saule, tressé la saule, c'est dit?
Oui.
La forme plus facile pour moi, c'est la sphère. Et même que c'est difficile de construire une sphère, mais pour moi, c'est plus facile. Et j'avais commencé à construire des petites sphères, et après, plus grandes et plus grandes. Et dans l'occasion de ces concerts, j'avais fait beaucoup de sphères tressées en saule.
Et le concert était venu en plus de ça, de la création, ou c'était déjà prévu au départ? Il y avait un mélange de création.
Il y a un mélange. Normalement, je travaille avec un groupe de personnes qui m'a aidé à faire un peu tout. Et en ces occasions, ces travaux sont nés spontanément. En fonction du groupe de musiciens qui sont là à jouer, la situation, l'ambiance. Tout c'est parti pourquoi c'est un vieux minière de charbon.
Ouais.
Et quand la minière s'est fermée parce qu'il n'y a plus de charbon, sort de la terre l'argile rouge.
Ah oui.
C'est normal dans toutes les minières de charbon. Et avec sa argile rouge, j'avais commencé à créer des formes à terre, à dessiner, et après, dans ces formes, c'est né la forme de la sphère que j'avais tressée dans les sauces. C'est un peu difficile d'expliquer des installations comme ça.
Mais quand on voit sur votre site les photos, on voit l'aspect rouge et aussi de nuit avec les flamèches oranges.
Oui, oui, oui.
Et on imagine la musique là-dessus, ça devait être génial.
Je pense. Pourquoi quand je travaille, je suis concentré dans mon travail et j'avais un rapport très, très personnel. Et après, tout ce qui se passe autour, pour c'est moi, vrai. C'est difficile de regarder ou de comprendre. Il y a des occasions que je travaille et après, c'est la Monica, après 2 ou 3 jours, qui m'explique qu'est-ce qui s'est passé là. C'est curieux de passer comme ça.
Heureusement qu'elle est là. Ouais. Alors, on va peut-être passer aux chanvres. Là, vous l'aviez utilisé pour le festival de Chaillol.
Oui, la chambre pour moi c'est un matériau très bel, très, très, comment on se dit, pour toucher, j'aime beaucoup la chambre. Et avec la chambre, j'avais commencé à construire des nids. Et après, dans le moment du festival de Chaillol, c'est le moment que j'avais commencé à travailler avec la chambre. Et en ces occasions, j'avais fait des bateaux.
Oui, mais là, vous avez fait pour Chaillol, vous avez fait une composition dans une chapelle où il y a des poissons et des gouttes d'eau. C'était pour essayer de représenter le cycle de l'eau.
Le thème du festival, c'est le passage...
Vertical.
La verticalité.
La verticalité.
Le paysage vertical.
Oui, ouais. La Monica me peut aider en plus.
Alors Monica, qu'est-ce qu'un...
Je pense que pour cette installation, c'est bien que la Monica explique, parce que me donne l'inspiration.
Oui.
C'était pas facile parce que le thème proposé par l'organisation du festival de Chaillol, c'était la forêt et le paysage vertical. Et alors, il a voulu répéter une fois encore un sujet qui est très cher à son cœur, qui sont les populations indiennes d'une région de l'Amazonie. Et alors,
oui, parce qu'on n'a pas dit Alejandro est
argentin. Il est argentin, ouais. Oui, il est argentin.
D'où son accent.
Oui. Et alors, il a proposé une installation où on avait l'impression d'y être au niveau de la mer. Il y avait des poissons et des gouttes de pluie et des bateaux.
Et des bateaux suspendus, des bateaux volants.
Oui. Et ça, c'était un peu le cycle, voulait représenter le cycle de l'eau, le devenir de l'eau qui retourne et dans la vie. Et voilà, le cycle, qui serait le thème plus important de l'Amazonie, parce que c'est très significatif pour la forêt, et voilà. Mmh. Et surtout pour valoriser la préservation de l'environnement.
Oui, l'environnement. Ouais, l'environnement.
Voilà. Moi, je suis italienne.
Oui, on s'en était aperçu.
En ces occasions, j'avais utilisé des poissons que j'avais déjà construits pour autre installation plus dédiée à cette indienne.
Et les poissons sont faits comment dans
de, quel... Les poissons sont des cortices de palmes, mais pour moi,
des
palmes de coco, mais n'est pas en ces occasions, n'est pas les matériaux, mais la forme. Qui pour moi me donnait l'inspiration.
On va sauter au bambou parce qu'on a le temps qui défile. Les bambous, vous aviez fait un igloo. Donc là, il y avait une idée de vide, de remplir le vide.
Oui. C'est dans les jardins d'Ouvain de
Notre-Dame de Monte, dans la Vendée.
Dans la Vendée. Et à l'intérieur de ce musée, il y a une grande plantation de bambous. Et mon idée, c'est d'utiliser ces bambous pour créé dans un lieu à l'intérieur du jardin, un grand igloo. C'est une structure de 6 mètres de hauteur pour 15 mètres de diamètre.
Ah oui, c'est très grand. Et l'idée, c'était de l'immerger dans la brume et qu'il soit traversé par le vent.
Oui, oui. Normalement, il y a beaucoup de monde qui visite les musées dans l'été. C'est très, très chaud. Mmh. Et j'avais pensé que pour incentiver, pour motiver les personnes à entrer dans l'igloo, si à l'intérieur, on avait construit tout à terre un système de... Comment ça s'appelle de
climatisation. De brumé, oui. Brumatisation.
Fraîche. Et alors, c'est très agréable d'entrer dans l'igloo et sentir sa fraîche.
Ah oui, d'accord. Donc, les gens venaient se réfrigérer dans l'igloo.
Et oui.
Donc vous auriez pu vendre le concept au niveau mondial.
Le vide est dans le vide.
Oui, le vide dans le vide.
Oui.
On va faire une pause musicale avec un morceau d'instrument éolien dont on parlera en deuxième partie.
Oui.
Un morceau qui a été fait par des amis à vous.
Oui.
Ces amis ont fait ce morceau à quelle occasion ?
Il n'y a pas beaucoup de personnes dans le monde qui travaillent avec les sons éoliennes. Les sons éoliennes sont des sons produits par les vents, qui passe à travers des instruments comme peut être l'harpe éolienne ou les flûtes éoliennes. Et c'était mon ami, et on avait fait des registrations avec cet instrument.
Alors on écoute. Bonjour amis auditeurs de RCF Alpes-Provence, nous sommes toujours avec Alessandro Guzzetti et Monica Riccini. On va aborder maintenant votre travail fondamental, celui qui vous a permis de donner corps à l'invisible. Ça c'est magnifique, et c'est le vent.
Ah oui.
Oui, donc le vent c'est quelque chose que vous travaillez depuis des années.
Dans plus de 20 années. Ah oui. J'avais commencé avec le petit cerf-volant et maintenant je suis arrivé à travailler avec les orgues éoliennes.
Donc au départ, vous aviez commencé, vous avez appelé ça les suspensions dans l'air.
Et oui, on va commencer pour expliquer quelque chose de l'évent. L'évent, c'est une force invisible, c'est une force que c'est pas possible de prendre. Et tout ce qui se passe autour des vents, c'est possible de regarder ou écouter. Et alors avec sa idée, j'avais commencé à travailler avec les mouvements. Comme le vent va à créer un mouvement dans les arbres, dans les feuilles, dans les plumes. Quand j'avais travaillé les plumes, j'avais commencé à travailler avec les plumes pour regarder le mouvement qui va passer à travers les plumes. Et ça m'a porté, avec les cerfs-volants, à créer des grandes structures suspendues dans l'air.
Et une des structures que j'ai vues en photo sur votre site, c'est cette espèce de roue. De toile en forme de
oui.
roue, de cercle,
oui.
qui tient toute seule en l'air.
Et oui, ça c'est une structure très technique. Pourquoi normalement, pour avoir quelques objets en suspension dans l'air, tu avais besoin d'une surface. Et cette structure, il n'y a pas de surface, c'est seulement un anneau. Et il vend à une petite surface pour prendre ses résistances. Et alors, la structure, c'est très technique et très difficile. Mais pour moi, c'est plus important la part esthétique. Qu'est-ce que c'est tu regardes un anneau suspendu dans l'air, c'est ça que c'est plus...
Ouais, c'est magnifique à voir. Ouais. On a l'impression que c'est de la magie. On se demande comment il peut tenir dans l'air.
C'est ça que je recherche. Ouais. Plus d'expliquer la part technique.
Et justement, dans ces mouvements, il y avait aussi des épouvantails. éolien que vous avez fait au Portugal. Ça a été à quelle occasion ça?
Oui, j'ai fait beaucoup, un grand recherche avec les zones éoliennes dans tous les parts de Le Monde, et je suis arrivé à le sud de Portugal à découvrir les épouvantales éoliennes. C'est un petit région du sud de Portugal qui utilise cette épouvantale, qui sont des petites girouettes moulins que, avec une percussion, vont créer des sons, et ces sons vont faire que les oiseaux ne mangent pas la fruite.
Ouais, ouais.
C'est très curieux parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'existe pas plus, parce que ce sont des personnes vieilles qui avaient construit ça, mais j'avais l'opportunité pour 5-6 années de demander à beaucoup de personnes de faire des photos et d'investigations. Et pour moi, c'est passé un période très intéressant. Et après de ça, j'avais commencé à créer des installations ou des sculptures avec cette typologie de son.
Et ensuite, vous en êtes venu aux instruments. Donc là, les instruments, vous avez une variété importante, non? Il y a 5-6 instruments comme ça.
Oui, après quand j'avais découvert que c'est possible de créer de la musique avec le vent, j'avais commencé à construire des harpes éoliennes, des flûtes éoliennes. Les harpes éoliennes sont des instruments, on va dire, en boîte de résonance avec les cordes. Et quand le vent va passer à travers les cordes, va faire la vibration. Et ces vibrations, c'est possible d'écouter. La même chose pour la flûte. La flûte, sont des petites, comment se dit...
Objets intercuits.
Intercuits, qu'il y a un trou.
Oui, là, l'objectif, c'est de créer des paysages sonores où ça levant le chef d'orchestre.
Ah oui, oui.
Il crée une musique très belle.
Oui, parce qu'elle n'est pas la... Pour écouter les sons éoliens, c'est besoin que tu aies dans l'espace de ces passages sonores. Comme ça, tu peux sentir s'il y a du vent, si le vent est plus fort,
la direction, le rythme.
C'est tout un paysage sonore ensemble de les choses. Ce n'est pas seulement la flûte éolienne ou l'harpe éolienne.
Oui, tu peux t'imprégner complètement.
Oui, complètement.
Pour moi, l'idée,
c'est l'ambiance.
C'est de vibrer.
Oui,
c'est
oui. Oui, avec le vent, avec tout.
Ce serait vraiment les vibrations au sens pur du terme, au sens naturel du terme.
Oui.
Et ensuite, vous êtes aussi passé à la corde dynamique. Donc ça, c'est compliqué de comprendre comment ça marche.
Alors, la corde dynamique, c'est... je vais expliquer un peu.
Oui, oui.
C'est une longue corde, 50 mètres, qui s'est tendue dans un point fixe et mon corps. Il va pas, la direction du vent, c'est perpendiculaire à la corde. Et en ce moment, la corde va commencer à faire des vibrations. Et j'utilise un bois de résonance pour faire écouter cette vibration. L'intéressant de cet instrument, c'est que comme un extrémité de la corde s'est attaché à moi, comme mon mouvement va changer la tonalité du son. Je ne sais pas si j'ai expliqué un peu. C'est plus facile de regarder qu'expliquer.
Et en plus, il forme comme une caisse de résonance, non, le tambour, qui donne l'impression d'une son hypnotique, un peu, non?
Oui, c'est pour faire une petite comparaison, quel type de son, c'est plus ou moins comme le son du chant de la baleine.
Ah d'accord.
Ce type de son s'écoute avec la corde dynamique.
Oui, lancinant. Ouais.
Oui, oui. Oui,
voilà. Et je crois que maintenant, votre grand projet, c'est d'arriver à faire des sons avec des tuyaux. Comment vous allez appeler ça? Vous avez...
J'avais continué à faire des recherches avec les sons éoliennes et maintenant, je suis très content parce que je suis arrivé à un instrument nouveau pour moi, c'est un tuyau. Avec une petite déformation à l'intérieur que j'avais arrivé après
beaucoup de recherches.
Et maintenant tu peux écouter le vent qui va passer à travers ces déformations du tuyau, et pour moi les sons de ces tuyaux c'est les plus belles que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui.
Ouais. Alors, il faut expliquer que les tuyaux sont suspendus.
Les tuyaux, il y a deux manières de jouer avec ces tuyaux. Peut-être que c'est lui reste fixe. Je suis en train de construire un orgue éolien, que j'avais appelé un orgue éolien. C'est une structure avec 10 tuyaux, ouais. Et c'est fixe. Et après, il y a une autre manière de produire ce son. Si tu prends les tuyaux avec la main et tu fais les mouvements, tu peux faire écouter les mêmes sons.
Voilà. Et votre idée qui est extraordinaire, ce serait de mettre des hamacs sous les tuyaux.
Et oui.
Et les personnes pourraient se balancer en faisant bouger les tuyaux par rapport à eux-mêmes.
Oui, oui.
Et être en interactivité l'un avec l'autre. On mettrait plusieurs hamacs.
L'idée, oui.
Sous une grande géode.
Oui.
Ça, c'est une idée fabuleuse.
Je suis en train de proposer, j'espère, de trouver qui est intéressé à proposer.
Oui, un sponsor. Ouais.
Oui, maintenant je suis à travailler, que j'ai déjà fini la part technique, mais l'idée c'est ça, de créer un espace où les personnes se reposent dans la Mac et sont les personnes mêmes interactives avec ces tuyaux.
Voilà. Elles créent elles-mêmes leur propre musique qui va se mélanger à la musique des autres.
Chaque Mac, il y a la possibilité d'échanger deux types de tuyaux différents.
Oui.
Et c'est dans l'ambiance, on va positionner 5-6 hamacs et la combinaison de sons, c'est très belle.
Bon, il faudrait donner un nom à ça. Ça serait chouette.
On va arriver.
Maintenant, je n'avais pas pensé à un nom.
Ouais. Il faut que Monica cherche pendant des semaines pour trouver le nom.
Oui. C'est ça la contribution que de la Monica, c'est après de trouver la part plus poétique ou plus...
Vous êtes plein de poésie comme ça naturellement, mais vous n'arrivez pas à mettre en forme une idée générale. C'est Monica après qui vient mettre sa touche.
Oui.
Ça, moi, je fais du espionnage parce qu'il parle pas beaucoup et alors je dois capter les idées, les gestes et ça parce que lui, dans sa démarche, il est très silencieux. Alors c'est
très silencieux, mais très prolifique, très actif.
Oui, beaucoup.
Vous travaillez énormément.
Oui, toujours.
Hein. Toujours en recherche. On a oublié le site, de donner le site internet sur lequel on va retrouver toutes les photos de Monica, et des vidéos et des sons aussi. Donc le site, c'est www.alejandro avec un J, Guzzetti avec deux Z et deux T.net. www.alejandroguzzetti tout attaché .net. On est déjà bien avancé dans l'émission. Le temps passe très vite.
Oui.
On n'a pas eu le temps de parler de plein de choses. Il faudra peut-être refaire une autre émission. Je me rappelle que vous aviez dit que peut-être vous ne vous sentiez pas aussi artiste, mais plutôt un homme curieux.
Et oui, je ne me reconnais pas comme artiste. Je ne sais pas.
Alors que les autres voient immédiatement.
Oui, les autres regardent mon travail et disent que c'est un travail artistique, mais pour moi, c'est plus la part de curiosité, de création, d'inventaire, de choses, de travailler. Pour moi, c'est un regard complètement différent dans le monde de l'art.
Eh bien, j'espère que vous allez donner le virus à nos auditeurs d'être aussi curieux que vous. Ils vont vous remercier d'être aussi curieux. Et qu'ils viendront à la Germanette en juin voir toutes les créations qui vont être faites par plusieurs artistes.
Oui.
Hein, et donc, vous superviserez tout à partir du vent. Ils seront tout créés à partir du vent.
Et oui, c'est en fait de vent.
C'est une fête du vent.
J'avais
trouvé la manière pour les artistes s'exprimer de tout, la peinture, la sculpture, l'art plastique, à travers le vent.
Bon, alors le rendez-vous est donné. Merci.
Merci
à vous deux.
Merci.
Focus. Gros plan sur les artistes des Alpes du Sud. Gilles Berger. Focus. L'art en grand.